Bonjour et bienvenue dans Parole d'expert, le podcast de l'ASL, l'autonome de solidarité laïque, qui aborde les grands sujets liés au métier de l'éducation. Aujourd'hui, nous abordons la thématique école et violence, et plus précisément la question du harcèlement au travail pour les personnels d'éducation. Qu'y a-t-il derrière le terme harcèlement? Quelle réponse apporter à celles et ceux qui en sont victimes? Quelles précautions faut-il prendre? L'administration est-elle suffisamment préparée et formée pour y faire face? Pour en parler, nous recevons Catherine Becchetti-Bizot, médiatrice de l'Éducation nationale, qui a notamment consacré toute une partie de son rapport 2019, paru en 2020, à cette question du harcèlement au travail. Bonjour Catherine Becchetti-Bizot.
Bonjour.
Le harcèlement est un phénomène complexe et parfois difficile à caractériser. À partir de quand emploie-t-on ce terme? Quelle est votre approche en tant que médiatrice?
Il est vrai que le harcèlement est un phénomène qui est souvent difficile à appréhender et qui met en difficulté parfois le système éducatif et même en déséquilibre, on peut dire. Les médiateurs sont surtout sollicités pour les effets, les conséquences induites par une situation de harcèlement, plus que pour le harcèlement lui-même. Des effets comme la dégradation des relations avec les collègues au travail ou avec la hiérarchie, la difficulté rencontrée dans l'évolution d'une carrière ou des choses comme ça. Pour la médiation de l'Éducation nationale, nous nous y sommes intéressés depuis de très nombreuses années parce que c'est un phénomène qui rejaillit sur non seulement l'équilibre psychologique et la santé des individus, mais aussi sur l'entourage de travail, sur l'entourage professionnel, avec, comme je l'ai dit, une dégradation des relations et des conséquences également sur le long terme, pas simplement sur le moyen terme, en termes de recrutement, de carrière, d'évolution de carrière, d'affaires des personnes et même avec des conséquences financières. Ce dont ont besoin d'abord ces personnes, c'est d'écoute et de reconnaissance de leur souffrance. Donc le médiateur, à ce titre déjà, a un rôle particulier. Il n'est pas à la place de l'administration, il ne va pas remplacer l'action de l'administration. Ce n'est pas lui qui va réparer les conséquences d'une situation de harcèlement, mais il va d'abord reconnaître la souffrance du requérant, de la personne qui fait appel à lui, et il va ensuite s'assurer que cette situation est bien connue et prise en charge par l'administration compétente. Malheureusement, alors que en principe, une situation de harcèlement doit être le plus vite possible traitée, prise en charge par l'administration compétente. Dans la réalité, certaines personnes viennent vers nous parce qu'elles ont besoin de dire des choses dans la plus grande confidentialité. Vous savez que la confidentialité est un des principes fondateurs de la médiation. Et étrangement, elles ont peur d'en parler à leur hiérarchie. Elles ont peur des représailles. Elles ont peur des conséquences que cela peut avoir en termes de stigmatisation ou de rejet de l'institution. Donc, le médiateur, qui normalement arrive en bout de chaîne une fois que les premières démarches ont été entreprises, premier recours administratif, premier recours gracieux ou hiérarchique, dans un cas de harcèlement ou de présomption de harcèlement, le médiateur peut aussi intervenir en amont, en prévention et pas en réparation. D'abord pour entendre la personne, pour détecter les signaux d'alerte et puis pour faire en sorte aussi qu'une enquête administrative soit diligentée pour objectiver et qualifier la situation. Parce que ce n'est pas au médiateur de qualifier une situation, c'est assez, comme vous l'avez dit, assez complexe, qu'un accompagnement adéquat de la personne soit mis en place, alors accompagnement qui peut être psychologique, mais aussi en termes d'évolution de carrière ou de prise en charge au niveau de l'équipe, au niveau du management de l'équipe, et puis le cas échéant, qu'une protection fonctionnelle soit mise en place en attendant les conclusions de l'enquête, pour ne pas que la personne ne soit pas encore exposée à son harceleur présumé et qu'on n'attende pas qu'une enquête qui peut parfois durer un certain temps aboutisse pour mettre en place des solutions d'accompagnement pour la personne. Le troisième point, c'est que le médiateur doit aussi vérifier qu'il est possible ou opportun qu'un signalement soit fait si un faisceau d'indices existe, soit à l'administration, si c'est plus grave et plus urgent, directement au procureur.
Vous parliez du rôle du médiateur qui effectivement ne qualifie pas le harcèlement. Pour autant, vous vous y êtes intéressée en tant que médiatrice de l'Éducation nationale. Comment avez-vous commencé à vous intéresser à ce sujet qui n'est pas de prime abord l'une des prérogatives principales du médiateur ?
Eh bien justement avec quelques cas de personnel qui avaient besoin de cette reconnaissance d'une personne bienveillante et qui n'allait pas la juger. Or, le médiateur est assez bien positionné pour cela, puisqu'il n'est pas dans l'administration. C'est un tiers bienveillant, neutre, impartial, qui respecte la confidentialité, qui est indépendant. Donc, ce pas de côté et cette écoute par une personne qui va être en capacité, sans juger, d'entendre et de reconnaître la souffrance de la personne qui se dit harcelée, c'est ce qui m'a fait m'engager dans ce sujet en me disant que le temps que j'allais leur consacrer allait peut-être leur permettre de faire un pas en avant et de s'engager dans une démarche volontaire pour qu'elles soient elles-mêmes, ces personnes, actrices de la solution qui allait leur être proposée. D'autre part, il y a dans les situations de harcèlement très souvent un caractère d'urgence qui fait que le médiateur, bien qu'a priori il ne soit pas le mieux placé pour enquêter ou qualifier une situation de harcèlement, est dans la position d'un agent de la fonction publique qui se doit de signaler un crime ou un délit dont il est témoin. On ne transige pas avec le harcèlement et on ne doit pas perdre trop de temps à écouter les personnes parce que souvent elles tournent en rond, elles alimentent leurs propres souffrances et elles ont besoin que des professionnels, qu'il s'agisse de psychologues, de juristes ou de professionnels aussi de l'administration, pour des questions, comme je l'ai dit, assez techniques liées à leur carrière, à leur changement de poste, prennent en charge et les accompagnent. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons, moi, mais aussi tout mon réseau de médiateurs, parce que les choses se passent beaucoup dans les académies, dans les établissements scolaires, dans les administrations des rectorats, nous avons pris la décision de traiter ce sujet plusieurs années de suite pour servir en quelque sorte d'aiguillon, pour améliorer le système de prise en charge. Parce que, comme je l'ai dit, tout était présent dans la loi, déjà. On a tout ce qu'il faut en termes de cadrage juridique. Mais en pratique, on se rend compte que quand une situation de harcèlement surgit, personne ne sait très bien par quoi commencer. Et ce flou qui existe fait que le médiateur, finalement, est souvent le premier acteur, alors qu'il devrait être en principe le dernier.
Vous parlez d'un rôle d'aiguillon pour le médiateur. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce rôle du médiateur ?
Alors, le rôle d'un médiateur, d'une manière générale, vis-à-vis de l'administration, en tout cas du système éducatif, n'est pas de les mettre en difficulté. C'est plutôt de faire des recommandations qui va les aider à améliorer leurs pratiques. Donc, un médiateur, par définition, il est entre les deux parties qui sont en conflit. Donc, il a à entendre aussi les difficultés des personnes concernées, qu'il s'agisse du supérieur hiérarchique, du N+2, ou du service de l'administration ou de l'établissement qui est concerné par la situation du personnel qui fait appel à nous. Donc, le but n'est pas de les mettre en difficulté, mais de faire en sorte qu'il y ait des prises de conscience de l'importance de certains sujets, de l'importance aussi pour eux, pour les protéger, de bien mettre en œuvre ce que la loi leur demande, de leur faire prendre conscience qu'il existe des outils juridiques, qu'il existe des procédures, qu'il existe des ressources également, et qu'il est donc possible de les activer au bon moment, et qu'il serait dangereux d'ailleurs de ne pas les appliquer. C'est en ce sens que nous servons d'aiguillon, et que notre rôle va jusqu'à parfois mettre en avant des freins, des obstacles, des retards dans la mise en œuvre de certaines dispositions légales.
Lorsqu'une victime se dit harcelée, comment, selon vous, l'administration doit-elle réagir ?
Du côté de l'administration, ce que je pense que les personnels attendent de leur hiérarchie, c'est qu'on les écoute avec bienveillance. C'est-à-dire qu'on les écoute sans les soupçonner de stratégie ou de mensonge ou d'exagération et qu'on prenne au sérieux ce qu'ils ressentent. Donc ça, c'est pas technique, c'est la base d'une entrée en dialogue et d'une confiance. D'ailleurs, et là pour le coup, le ministère a vraiment avancé, en principe, dans chaque académie, auprès de chaque recteur, il existe une cellule d'écoute. Pas le médiateur, c'est une cellule d'écoute dans chaque académie pour que les victimes d'actes de violence ou de maltraitance ou d'intimidation ou de discrimination, de harcèlement moral, sexuel ou sexiste, voilà, c'est toute cette palette-là, puissent aller se confier, parler, être entendues par des personnes qui vont garder les choses pour ce qu'elles sont, qui ne vont pas en tirer de conséquences, mais qui vont pouvoir peut-être les orienter vers le bon professionnel, la bonne personne. Dans tous les cas, il est important de rappeler que la posture la plus appropriée, ce n'est pas de condamner a priori l'une ou l'autre personne, ni celui qui se dit harcelé, ni celui qui est le harceleur présumé, Les deux peuvent être en grande difficulté. C'est ce que m'a appris l'exercice de mon métier sur ces sujets-là. On sait bien que lorsque ce type de situation est rendu public, par exemple, quand on va trop vite en qualifiant une situation, cela peut avoir des conséquences dramatiques, non seulement des deux côtés, mais pour l'institution aussi qui les accueille. Au fond, ce qui est le plus important pour le médiateur, c'est de s'assurer que toutes ces étapes sont bien réalisées par l'administration. Repérage, écoute, orientation, guide et conseil, enquête administrative et ensuite mise en place d'un accompagnement, d'une protection et voire d'un signalement.
Pour autant, nous l'avons vu dans vos derniers rapports, la question du harcèlement professionnel dans l'éducation nationale reste complexe à traiter. Concrètement, qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui selon vous ?
Les médiateurs académiques, par exemple, comme les autres acteurs de l'institution, tous ceux qui s'occupent de GRH de proximité, ne sont pas toujours sûrs que le harcèlement soit de leur ressort. Ils ne se sentent pas qualifiés pour interpréter ou objectiver une situation. Donc, c'est cela qui ralentit le processus. Alors après, il y a d'autres facteurs, d'autres phénomènes qui sont les relations hiérarchiques dans les deux sens. Quand un chef de service apprend que son N-1 est accusé de harcèlement, il est assez difficile pour lui, dans un premier temps en tout cas, de ne pas avoir aussi le souci de protéger la réputation de son N-1. Et dans l'autre sens, il est difficile pour une personne qui se dit harcelée de mettre en cause son supérieur hiérarchique parce qu'elle pense qu'ensuite, ça va aggraver son problème et qu'elle va être encore plus rejetée ou harcelée par cette personne. Les freins, ils ne sont pas administratifs, ils sont humains, ils sont psychologiques. Ils sont liés à une situation de personnes qui sont dans une même équipe et qui travaillent ensemble et qui se côtoient au quotidien. Et ça, c'est assez difficile d'intervenir là-dessus. D'où aussi l'intérêt d'avoir un regard extérieur des personnes qui ne font pas partie de l'équipe, qui sont vraiment à côté, le médiateur ou l'enquêteur, mais qui ne doit absolument pas être quelqu'un du même environnement professionnel. Or, comme ça ne se fait pas, pour les raisons que je viens d'évoquer, moi, ce qui m'a semblé finalement être susceptible de pouvoir améliorer les choses, c'est que l'arrêté qui définit les procédures de recueil et de signalement des actes de violence ou de harcèlement, qui décrit très précisément les différentes phases, puisse être publié le plus vite possible. C'est une sorte de chemin de guide qui va faire que chacun va savoir quel est son rôle, à quel moment, quelles sont ses responsabilités, quels sont les outils dont il dispose, à qui il peut faire appel. Parce que si on n'a pas ce guide bien tracé, cette procédure, sans qu'elle soit trop rigide, hein, bien sûr, parce que chaque cas est particulier, eh bien, on va continuer à se renvoyer la balle, à perdre du temps. Or, la perte de temps dans ces cas-là est toujours très dangereuse et très grave, parce que le temps aggrave considérablement les choses. Plus la situation dure, plus elle s'enquiste, plus elle est difficile à traiter, et plus les personnes sont en danger.
Vous parliez d'un problème humain plus qu'administratif. Peut-on considérer qu'il y a un manque de formation sur ces questions ?
Oui, je pense que effectivement, quand on est outillé pour faire face à un phénomène aussi complexe et aussi subtil et délicat, comme vous l'avez dit, dans certains cas, la meilleure chose, c'est la formation pour savoir quelles ressources on peut mobiliser, à qui s'adresser, pour être sensibilisé à l'importance du problème, pour connaître les cadres juridiques, les risques aussi, les sanctions qui risquent d'être aussi décidées par un juge si l'affaire n'a pas été traitée. Tout cela demande une formation. Ce n'est pas simplement d'ailleurs une formation juridique, c'est aussi une formation psychologique, culturelle. Il faut changer de regard et ça ne peut se faire que si on travaille sur des cas pratiques, des études de situation avec un regard partagé. Si on est formé à l'écoute et à l'accompagnement pour ne pas aggraver les choses. On a vu dans certains cas où des personnes de bonne volonté voulaient aider des personnes harcelées ou discriminées. Au lieu de les aider, elles ont aggravé leur cas en ayant beaucoup de maladresse dans la manière de s'adresser à elles et de qualifier leur situation personnelle. De nombreux partenaires, comme l'ASL en particulier, peuvent avoir un apport en termes de sensibilisation et de formation. Ils ont une expertise que l'administration n'a pas forcément aujourd'hui en interne. Et donc, c'est important de travailler en bonne intelligence avec des partenaires. Pour autant, cela ne doit pas déresponsabiliser l'administration. C'est à elle de se donner les moyens d'agir, fût-ce par des partenariats, Et si ce travail est effectué avec des acteurs externes, c'est bien à l'administration qu'il revient de piloter cette formation.
Merci Catherine Becchetti-Bizot. Merci d'avoir écouté Parole d'expert, le podcast de l'ASL qui aborde les grands sujets liés au métier de l'éducation. Pour écouter les autres épisodes, je vous donne rendez-vous dans la rubrique podcast du site internet de l'Autonome de Solidarité Laïque.